Ok, on vous propose un pilote, on le fait à nos frais, mais au moins donnez-nous le droit d'exploiter le court-métrage, au moins sur le modèle, par exemple, on a ressorti des contrats, le Dollar Baby de Stephen King. Stephen King propose pour un dollar symbolique la propriété de toutes ces nouvelles, pratiquement, au format court-métrage, pour une diffusion uniquement en festival et en bande démo, donc impossibilité de commercialisation ou de vente en télévision. Mais c'est génial, Darabont vient de là, donc Darabont c'est vous qui venez à la fin. De ministre et compagnie, donc ça crée des choses, c'est un moteur de création. Et on s'est dit, ok, bon bah tant pis, on va faire un fan film, on va prendre la méthode de George Lucas, qui autorise, et Warner aussi maintenant, autorise les fans hardcore de se balader dans leur propriété, dans leur univers en gros, et de sortir des films, mais où on a le droit de payer personne, on n'a pas le droit de diffuser en télé, on n'a pas le droit en fait de générer quelque argent que ce soit, quoi que ce soit. Mais on a le droit de s'amuser avec. Donc on a fait ça. On a mis des mentions légales énormes, à coup de on n'a payé personne. On a monté un dossier de production qui commençait par pourquoi faire un film qu'on ne pourra pas vendre. Et on va dire que la bêtise jusqu'au boutiste a séduit quelques personnes. Il nous fallait, bon, en gros, on a fini à 50 000 euros. On a trouvé 25 avant de tourner en un mois, avec des personnes de bonne volonté. Donc une dizaine, en gros, je dirais, de mécènes, donc des réalisateurs qui nous suivaient, des producteurs, des proches, enfin, voilà. Et on a pulvérisé le budget, quoi. Le quatrième jour de tournage, on dit, il manque 10 000. Yeah. Non. Donc là on continue et ça fait 3 ans que le film est fini, j'ai encore des dettes, c'est déréglé. Mais c'était impératif en fait, parce que c'est ça, il n'y a pas de système économique ici pour que ce genre de projet existe. On est obligé de se débrouiller tout seul en attendant que le système existe ou qu'on crée nous-mêmes peut-être dans les générations qui vont venir, enfin générations années j'espère. Et du coup, donc sur Oxford en particulier, on s'est dit ok, bon, Oxford c'est simple, 12 cinglés enfermés dans une prison américaine. On suit un de ces gars-là, qui est un type qui se prend pour un dieu Lovecraftien, qui a subi des trucs terribles pendant la guerre en Irak, qui est complètement à côté de ses pompes et qui ne peut pas s'empêcher de croquer la gorge de ses collègues. Donc il est ingérable, il le colle là-dedans, avec des pédophiles, des mecs absolument infâmes. Et le truc un peu rigolo, parce que c'est quand même l'idée, c'est que tous les gardiens de cette prison, qui sont gérés par un consortium russe, sont des loups-garous. Donc, comment faire sur un scénario de série Z absolue, quelque chose qui essaie de se prendre le maximum au sérieux, sans prétention, mais avoir vraiment une bonne facture, quelque chose qui fait qu'on rentre dans cet univers. Et donc on a fait un court-métrage de 15 minutes, ça a pris 14 mois. On s'est retrouvé, donc en fait on se connaissait avec Monsieur Duval, et j'avais vu du coup de loin, on avait beaucoup discuté sur comment s'était passé Peter. Donc j'ai essayé d'apprendre beaucoup de toutes les réussites qu'il y a eu, de toutes les difficultés qu'il a pu avoir, et à se dire ok, le premier truc que j'ai cerné, c'est si on n'a pas l'équipe de post-prod avant, on est mort. C'est-à-dire j'en prends pour 3 ans, et le problème c'est comme on avait pété le budget sur le tournage, mais avant la fin du tournage, c'était impossible, on était cuit. Donc on a fait ça. En gros c'était énorme, on était 100 sur le plateau. On a fait 2 équipes, Réa. On a tourné que 5 jours dans des horaires normaux. Et après pour les effets spéciaux, on les a fait seulement en équipe dure, on va dire en 3 mois. Après il y a eu 14 mois de développement visuel, des petites équipes, de choses comme ça qui ont permis justement d'affiner les choses. Mais ça a été concentré sur 140 graphistes sur 9 boîtes de prod en même temps. Et du coup, il a fallu... Et tout ça avec des gens de bonne volonté qui, en fait, des anciens de chez Buff Company, qui sont... Voilà, on est partis, on a fait tout un truc ensemble. Et donc, Cyrus Buisson, mon superviseur, M. Sarnikier, ma post-productrice, mes productrices. Et du coup, ça a été... toute une aventure de dingue, dire ok, le sommeil c'est terminé, et parce que c'est on n'en parle jamais assez, mais c'est le truc du vraiment, c'est terrible la post-production pour ça, c'est infâme. Et mais on au fur et à mesure, avec tous ces gens, on arrive vraiment à créer quelque chose, une œuvre commune en fait, sans faire du cinéma équitable, on arrive à avoir quelque chose qui soit vraiment un travail une vraie force. On sent. Enfin, moi, je me sentais porté par tous ces gens, quoi. Et du coup, on a vraiment envie de faire le truc le mieux possible.
Et maintenant, alors, donc, le court-métrage est fini, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez en faire?
Après des menaces de poursuite très sérieuses, j'ai renoncé absolument à l'idée de le diffuser publiquement ailleurs que sur Internet. Donc, on l'a sorti sur net le 1er octobre dernier. Et bah, là, on était un peu plus près. Vu que le film est en anglais, c'était la première fois que je tournais en anglais. Et c'est avec Jason Fleming et Dexter Fletcher. Donc, au niveau international, on avait une bonne image. Et le chef opérateur, le mec qui a fait la lumière, c'est Karen Bogas, qui est chef op de Besson. Et du coup, on s'est retrouvé avec le cadreur de De Palma, des choses comme ça. Mais des chefs de poste qui étaient aussi des gens que je connaissais depuis toujours, qui avaient 25 balais, quoi. Et du coup, ce qui était génial, c'était cet équilibre-là. Et ça, en fait, aussi, ça a beaucoup séduit outre-Atlantique. On a reçu de nouveaux coups de téléphone, beaucoup plus nombreux, mais cette fois, on y allait. Et donc, 2 mois après, je me retrouvais à perdre pour Warner comme un gosse sur la place de Retour vers le futur à chercher mon rendez-vous avec le producteur Sherlock Holmes 2. Et c'était vraiment le délire total. Et du coup, voilà, ça a duré 15 jours à peu près. J'ai signé avec un agent américain qui m'a permis en fait du coup de m'ouvrir un peu, ça a été le sésame à les portes de partout là-bas. Et j'ai essayé d'apprendre le système en sachant que voilà, en 15 jours qu'on se finit. Mais par contre, il y a un truc que j'ai compris tout de suite. C'est que, en fait, ils sont ultra frustrés parce qu'ils sont incapables de déceler, en fait, de sonder notre matériel artistique ici. C'est-à-dire que toutes les bandes dessinées qui sont coincées pour eux en Europe parce qu'elles sont mal ou peu éditées à l'étranger ou pas traduites, ils sont foyés, quoi. Et donc, ils ont besoin de mecs comme nous. Ils vont presser, amenez-nous le truc, faites les devs, bam, allez, tu dégages, tac, je te signe. Après, ils sont pas tous comme ça, bien entendu. Hein. Je sais que des gens super là-bas. Mais on sent vraiment que l'avenir, ça va être ça. C'est qu'ils vont essayer de récupérer un maximum de gens, de jeunes gens ici, pour ramener chez eux les licences. Parce qu'ils commencent à en avoir marre de faire Spider-Man 22. Et du coup, il faut qu'ils aient des nouvelles licences, parce que de toute façon, le système économique est basé sur ça, de la réédition, du remake, de la licence, du reboot, etc. Donc, ils vont le chercher ailleurs. Et c'est pas que le cas des États-Unis. Bon, transpersonnage, donc Casterman Corée, c'est juste un truc de dingue. Film de 80 millions, avec Chris Evans dans le titre, tout le reste c'est du cast coréen, c'est un truc absolument incroyable, un réalisateur The Host. Donc voilà, c'est en train de s'ouvrir, et nous en fait on a une mine d'or. Donc maintenant faut juste pas qu'on se trompe. Et voilà.
Chaque pas maintenant est. Super important. Donc là, tu as un agent américain alors, donc, qui t'aide dans les démarches. Donc là, tu vas régulièrement aux States. Comment ça se passe alors pour toi?
Alors non, parce qu'en fait, tout est à tes frais. Absolument tout.
Ah, toujours
C'est simple.
En fait,
c'est
pas la peine d'aller à Hollywood. Même là, tout est à tes frais. Alors.
Non, c'est sûr. Non, en fait, c'est simple. C'est les gens te payent à compter du monde, tu leur apportes du fric. Mais par contre, eux, je ne les paye pas. Enfin, ou alors, c'est comme pour les avocats, il y a toujours moyen de trouver des deals en points, etc. Mais on va dire qu'on est dans une zone. Avec Nico, qui est vraiment un peu pénible, je veux dire, dans le sens où on sait que si tout le monde te tape dans le dos en disant non mais t'inquiète mec, ça a marché. Oui, mais il y a du taf, il y a vraiment du taf, parce que justement transformer, rendre pragmatique, concrète les choses, quand on essaye de faire des courts-métrages, des proofs ambitieux, ces pilotes ambitieux, les transformer, arriver à ce premier long-métrage qui est dans une norme de fabrication, qui correspond pas malheureusement à l'industrie aujourd'hui, ou difficilement, c'est tout un travail en fait, voilà, il faut lire beaucoup, écrire beaucoup, rencontrer normalement, pas rester seulement ici, aller voir partout, mais ça peut être aussi tout simplement en Allemagne, en Angleterre, il y a vraiment des gens bien partout, quoi. Mais je dirais que ce qui est intéressant dans ce côté adaptation de BD, c'est qu'on intéresse un peu le monde entier à regarder vers chez nous, et du coup, nous, ça nous donne un petit peu de confiance à se dire finalement, moi, je suis à Paris depuis 3-4 ans. J'étais à Tours et au Mans avant. C'est-à-dire qu'on avait envie d'en sortir. Mais il y avait vraiment un truc que je ressens ici, où je suis très content de travailler très tard, c'est que j'ai l'impression d'être dans une cage, quoi. On sent qu'il y a une pression. En tout cas, sur les jeunes réalisateurs, bien sûr, il y a une angoisse de comment faire, en fait, pour sortir de ce truc du je ne peux pas faire une comédie simple, franche télé. Je vais essayer de faire du loup, du 99 francs, comment je fais? Donc il faut avoir un passé. Et c'est vrai que bah, ouais, il y a tous les gens de la bande dessinée, d'autres auteurs, il y en a plein quoi. Il faut avoir ce passé. Et donc quand on vient de nulle part, on est obligé de taper fort du pied. Donc on fait des fanfilms, on les fout sur internet en mode punk et puis on fait chier tout le monde et du coup on existe. En gros pour simplifier c'est ça.
Comme Pixel, voilà.
Tout à fait.
Et donc maintenant, bah, ton agent américain, alors il sert à quelque chose ou
Ah, grave. Bah, déjà, c'est tout con, hein, ça fait un an que je travaillais avec lui, du coup.
C'est quelle agence
hein? WNI. Ouais.
Tout à
fait. Et du coup, c'est. Enfin, sans entrer dans les détails, en gros, il m'a permis de rencontrer des gens qui aujourd'hui font que je vais faire des longs. Déjà, tout bêtement. Ensuite, le deuxième point, c'est que on fait des compétitions qu'on sait qu'on va perdre. C'est en gros, c'est basé comme sur des pubs, hein, les films américains. Hein. C'est voilà un pitch, voilà un script de 90 pages, faites-nous une présentation, faut que ça cogne, on veut te prendre, mais si t'inquiète, t'as pas besoin d'avoir fait un premier film, allez, viens. Et là, on prend X pages, X documents, évidemment, sur fond propre, et avec de bonnes volontés de concept artistes qui nous font confiance et qui nous suivent. Et après, on sait très bien qu'on va se faire piller nos idées et qu'ils ne prendront pas. Mais le travail, en fait, cette pression, cette collaboration, parce qu'il y a quand même de la collab, et pouvoir bosser, vraiment le gros projet que j'ai fait cette année, où vraiment je me suis régalé et où j'ai eu vraiment où j'ai appris beaucoup, c'était un projet chez Bad Robot, donc la boîte de prod d'Abrams, où je me suis retrouvé à discuter avec des prods de Cloverfield, où on a vraiment avancé. Construit des choses. Moi j'ai beaucoup appris sur ça en fait, sur justement comment désosser un scénario, comment construire une histoire, comment aller la rendre ultra efficace, et aussi peut-être avec nous, notre point de vue européen, comment essayer justement de s'affranchir de cette efficacité à tout prix pour aller chercher plus l'émotion à tout prix et le sens. Donc voilà en fait, cette balance là, moi je l'ai trouvée grâce à mon agent, et aujourd'hui on a trouvé voilà, la bonne balance pour réussir à recentraliser sur l'Europe. Les États-Unis et l'Asie, une espèce plutôt de projet international plutôt que de américano-américain ou franco-français.
Et donc, d'accord, ça, mais donc là, tu es plutôt en train de pencher parce que tu dis qu'en gros, le marché en France pour l'adaptation des BD, et tout ça, c'est très difficile. En général, en Europe, c'est vraiment qu'il faut essayer de trouver sa petite niche alors aux États-Unis qui cherchent justement des nouvelles histoires et ils n'arrivent pas à. Les choper parce qu'elles ne sont pas éditées, etc. C'est ça, ce que, donc, c'est ça un peu la conclusion.
Moi, ouais, disons que pour être un tout petit peu plus dans le détail, je dirais que partir aux États-Unis à tout prix, je vois pas l'intérêt. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît notre terrain, même si on sait les endroits, c'est Queen. Après, ici, je dirais pas que c'est compliqué de faire des adaptations de bande dessinée. Je dirais que c'est compliqué de faire des adaptations de bande dessinée quand on n'est personne.
On
n'est
pas
fille de fils de c'est ça. Pas forcément, ouais, mais après ça a des qualités aussi, c'est vraiment. C'est plus. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on manque d'une chose, c'est convaincre, mais on n'a pas besoin de 50 000 chances, on a besoin que d'une. Mais à un moment, il faut la donner. Donc, nous, on va la prendre, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est pas fatigant, mais c'est tellement dommage, en fait, de perdre autant de chance de voir naître des choses atypiques et aussi rentables. Parce que c'est aussi le paradoxe en ce moment, c'est que la plupart des films qui sortent, je parlerai pas de l'histoire de trucs de comédie, de machin, il y a un équilibre économique bien évidemment dans ce truc-là, mais plutôt dans les films à qui on donne les chances, des films, des petits films, où en fait finalement ça a aucun aspect de rentabilité, et bien entendu que du coup ils vont se faire démolir par la suite, même si le film est bon. Il y a des exceptions, mais en fait, voilà, c'est plus ça que j'ai appris aux États-Unis, c'est à se dire comment je fais un truc bien, certes, mais comment je fais un truc bien qui leur rapporte du fric, pour qu'on me foute la paix. Et c'est tout le problème, en fait, des adaptes de BD ambitieuses, c'est comment on fait pour trouver l'équilibre de tournage, qui fait qu'on se dit, ok, même si on n'est pas Nostradamus, c'est du convaincre par pragmatisme. Et après, c'est la douce schizophrénie de, je suis un artiste, foutez-moi la paix, mais si, t'inquiète, ton truc va rapporter de l'argent. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y avait des questions est-ce que vous souhaitiez réagir?
Oui, tout de suite.
Si tu peux prendre le micro.
Bonjour.
pour dire ce que tu disais, Julien, parce que tu disais que tu avais une révélation sur le tournage de Le Terrier, mais t'es passé dessus, et pour le coup, si tu veux partager avec nous cette révélation.
Très simplement, c'était le volume du décor. C'est en gros, quand on fabrique des cours, ou bon, t'as pas de cul, tu dis, ok, c'est quoi la taille, quel est le rapport entre le sujet, le personnage, là dans la scène, le volume, et la narration, et comment je fais pour trouver la bonne balance pour que ce soit ambitieux. Et pas soit une grande guignolesque ridicule, ou au contraire tout petit et intimiste, mais alors qu'en fait tu cherches juste à avoir un truc un peu plus gros, quoi. Donc ça c'était... c'est la barre. Moi je suis arrivé le premier jour, c'est simple, c'était un petit décor avec tout était amovible, et t'avais juste Ralph Fiennes et Jason Fleming. C'est pas du tout la même école de jeu, c'est-à-dire qu'il y en a un, c'est shakespearien, tu le regardes, t'as l'impression qu'il va te buter. Et l'autre, c'est l'école à l'anglaise, presque punk de rue, hyper détendue, où il n'y a presque aucune différence, il y a un switch immédiat entre je suis dans la scène, je suis hors de la scène. Et déjà, juste ce rapport à l'acteur, où tu te dis, en fait, il n'y a pas une manière de diriger. Et la mise en scène, ce n'est pas du coaching. Et alors déjà, ça a été grosse claque. Et l'autre truc, donc c'était techniquement, à se dire, ok, on peut couvrir sous tous les axes un truc, et de se concentrer finalement, un peu comme au théâtre, en fait, finalement, que sur une scène centrale entre le regard de deux comédiens qui vont s'envoyer un max de choses, et il faut aller saisir ça. Et comment en fait tu vas utiliser ce volume pour aller finalement te rapprocher d'eux et les ramener vers le spectateur. Et ça ici, j'ai jamais vu ça sur un plateau. C'est on n'a pas le temps, je suis en contre-champ, on va faire un master, vas-y on dégage, suivant next. Ok. Là, il y avait du temps pour bosser, donc forcément... on a pu voir. Le deuxième jour, c'était le contraire, c'était le bizutage absolu. C'est bon, ben voilà, maintenant que vous avez vu le tournage, tu vas faire figurant dans un film où il y a 1000 figurants. Et on s'est retrouvé en première ligne avec mon pote à foncer sur des cascadeurs habillés en spartiate. En débile. Et tu te dis, déjà, j'étais absolument terrifié, mais il y avait vraiment cet aspect où tu te rends compte à quel point c'est rodé. Le make-up, le costard. C'est vraiment industrialisé, c'est du bétail. Mais comment aussi, justement, les gens arrivent à trouver une humanité là-dedans, en que les figurants à l'étranger sont professionnels. C'est leur métier, ils ne font que ça. Donc en fait, ils travaillent entre eux, ils travaillent des détails de jeu, des détails de personnages, de mise en scène, ils créent des petits espaces de jeu. Et tous ces trucs, en fait, vraiment purement concentrés sur le jeu, la réalité du moment. Ici, c'est des secondes, troisième assistant, et qui galèrent à essayer de mettre un petit peu d'organisation sur un plateau avec des types qui ont envie, c'est de se barrer après avoir signé leur chèque. C'est tout cet équilibre-là, ou comment tu fais, alors qu'ici on a des qualités de fou sur des plateaux, des trucs incroyables, comment tu fais pour trouver la balance entre ça, entre les deux? Et donc voilà, c'est ça en tout cas, moi, la révélation.
Par rapport à ce que tu disais, parce que souvent on discute à propos des... Et puis tout le pays discute de la crise du cinéma français. Est-ce que la difficulté d'adapter une BD, finalement, c'est ce que tu disais, et finalement, je voulais poser la question à toi aussi, est-ce que c'est la difficulté de faire exister un univers à part? Parce que j'ai l'impression que Lou, c'est quelque chose qui se vend bien, et j'ai pas l'impression qu'on soit dans un univers très différent de la réalité, c'est quelque chose de très connu, en fait, donc peut-être plus facilement vendable. Et, voilà. Mais est-ce que vous considérez qu'il y a une difficulté en France, effectivement, de faire exister des univers? Souvent, on dit que le cinéma français est un cinéma sans personnages, ou avec la difficulté aussi de faire exister des personnages. Et à quoi c'est dû? Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est autre chose?
Déjà, je dirais que c'est culturel. Un truc qui est lié au mécanisme de financement du cinéma, qui font quand même le cinoche en France est quand même financé par la télévision. Donc du coup, forcément, c'est comment tu, entre guillemets, tu éduques le regard du spectateur, et donc aussi les gens qui ont envie de voir dans les films en tant qu'acteur. Donc ça, c'est un truc. Ensuite, les films côté film à univers. Il y a que le fond du problème, c'est que les gens qui se pointent avec des films à univers, c'est parce que c'est que des films à univers et sans personnage. C'est que ça raconte putain de que dalle. T'as juste un truc super beau et qui t'en met plein la tronche. Mais depuis Amélie, moi, j'ai pas vu un film vraiment qui mélangeait les deux. Et après, j'ai vu des tas de super grands et bons films, mais où vraiment t'as cet équilibre en franco-français. Hein, où il y avait cette magie, cette poésie de l'onirisme, mais en même temps le pragmatisme à la française, ce qui fait qu'on peut avoir une sorte de rationaliser les événements d'une certaine manière. Et enfin, moi en tout cas, perso, c'est ce que je trouve qu'il faudrait réussir progressivement à ramener. Je pense que rien n'est impossible et qu'effectivement les gens sont frileux parce qu'il y a eu des échecs ou parce qu'ils ont... Enfin, les derniers gros échecs qu'il y a eu, pour moi, ils sont principalement liés aussi à un rapport d'équilibre entre ce que ça coûte, ce que ça peut rapporter et comment c'est vendu. C'est-à-dire que même si le film n'est pas spécialement mauvais, je sais pas, moi je vois par exemple, pour en citer qu'un, et moi je vois, Blueberry, c'est un film qui m'a touché à l'époque, ça n'a rien à voir avec Blueberry, la BD, hein. C'est un western chamanique, c'est un trip, c'est un film tripal, complet. Et c'est absolument pas un western. Donc quelle est cette obsession d'avoir un western? Pourquoi avoir un western? À part se foutre le public à dos, se faire détester et faire passer le réalisateur pour un mec qui a pété les plombs, perdu le contrôle. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste une histoire de bon final. Voilà. C'est un film tripal qui se passe dans le Far West. Et c'est un film sur le chamanisme. Et vendre un truc comme ça, les mecs, ils ont pas envie. Et on n'est pas dans du direct ou vidéo, quoi. On peut pas vendre des films de cinéma comme on arnaque un mec qui a envie de payer 4 euros sur de la VOD. Là, c'est mon avis. Voilà.
Ouais, on peut arnaquer les gens, mais pas longtemps, en fait. Ouais. Au bout de 2-3-4 jours, ils s'en rendent compte.
Ouais, sur Lou, est-ce que. Est-ce que t'es d'accord avec ce que je disais? Non, mais est-ce que t'es d'accord avec ce que je disais sur l'aspect. Univers, est-ce qu'on est quelque chose que tu estimes quand même très original ou quelque chose de beaucoup plus reconnaissable pour un grand public
Bah c'est les deux, enfin, je sais pas, ouais, c'est un truc original et effectivement puisque les livres se sont vendus, ouais, il y a un capital de notoriété déjà et il s'empêche pas que c'est une œuvre personnelle, quoi, hein, du tout, c'est pas le fait que la télévision formate les films, les gens de télévision interviennent très peu sur le contenu des films, un peu sur le casting, mais en gros ils disent le nom, quoi. C'est les producteurs eux-mêmes aussi qui préformatent les films et qui s'auto-censurent et qui ont un peu peur, enfin faire confiance à leurs auteurs. Ouais.
Quand t'écris, tu le ressens
Non, je le vois parfois dans les projets, ouais. Et puis les projets qui s'arrêtent, il y a des tas de choses qui ne sont pas menées à bout. Hein, quand on écrit, il y a eu des échecs. Hein. Mais les producteurs sont assez trouillards, ouais, pour beaucoup. Ouais. Et puis après, effectivement, il y a des tonnes de films qui sont développés, qui pour l'instant se montrent pas parce que les chaînes de télé ne mettent pas d'argent dessus. Et si tu n'as pas de chaîne de télé, si tu n'as pas. Il y a quelques films qui se font sur Canal+, il y en a de plus en plus, mais c'est automatiquement des films pas chers, mais pas chers du tout, donc après on a peu de chances d'exister. Le cinéma français, il y a des gros films qui concentrent une grosse partie de l'argent, et après t'as énormément de petits films qui sont avec de moins en moins de fric. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait des budgets qui n'existaient pas, quoi, qui existent aujourd'hui, alors que le coût de la vie a monté. Quoi. Aujourd'hui, un film à 800 000 euros, il y a beaucoup de films à 800 000 euros, quoi. L'équivalent de, je sais pas, 5 millions de francs d'il y a 10 ans, quoi. Or, il y a 10 ans, les films à 5 millions de francs, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est de plus en plus cruel, et l'écart se creuse. Et les plus pauvres deviennent plus pauvres.
La conclusion, Non mais ça c'est de toute façon, bon ça c'est après une autre discussion avec la nouvelle convention collective, justement balayer un peu tout ça. Mais
Nicolas justement, par rapport à...
Enfin, moi ce que je pense là-dessus c'est qu'ils n'y pensent pas en fait. C'est-à-dire qu'ils sont dans un roulement, ils se disent, bon bah, c'est comme quand j'ai rencontré Universal avec Peter, il dit écoute là on a l'arnaqueur bis. Sur un tas comme ça, donc c'est une espèce de roulement et c'est en leur montrant que ah ouais c'est possible en fait, c'est quand j'ai montré le pilote ou des trucs comme ça, donc moi je pense que c'est faisable en fait, c'est juste faut leur créer le désir en fait, faut leur montrer et tout ça parce qu'ils sont, à mon avis hein, ils sont vraiment dans une logique de maintenant Boule et Bine a marché, donc moi on m'a proposé Cubitus quoi. Bon. Désolé. Donc voilà, donc, c'est qu'est-ce qui ressemble à ça et puis on... Tu fais ouais, mais j'ai. Enfin voilà, si possible, un truc un peu plus. Voilà, donc, c'est pareil, c'est maintenant. En fait, c'est. Je pense que c'est comme pour Astérix, quand on en a quatre, même s'il y en a qui marchent pas, c'est qu'ils voient pas ailleurs, en fait. Ils voient que leur truc, ils disent bon, bah, il y a Lucky Luke, tous les trois ans on sort un Lucky Luke, même si ça marche pas, enfin tout ça. Ils voient pas plus loin que le bout, leur nez, quoi. Et comme tu dis, il y a un vivier énorme de BD, comme Il était une fois en France, plein de trucs comme ça qui sont magnifiques, quoi. Faut y aller, les gars, quand même. En plus, c'est un patrimoine français, la plupart. Et voilà, et non, Astérix 5, 6, et voilà,
comme Spider-Man 22.
Enfin, Boulébile, bah tant mieux, enfin, moi je crache pas dans la soupe, et tant mieux, parce que tout cet argent finalement est redistribué, tout ça, et je l'espère sur des projets un peu plus funk, mais enfin voilà, c'est juste qu'ils y pensent pas. Moi, c'est quand j'ai rencontré Fidélité et tout ça, qu'il a vu le pilote, il a fait voir, je connaissais la BD, mais c'est en voyant le pilote que maintenant ça m'intéresse, quoi. Donc c'est des choses comme ça, en fait. Alors que la BD, elle est super connue, quoi. Le Peter Pan de Régis Loisel, auteur, il est super connu. C'est juste qu'il faut leur créer le désir, en fait. Enfin, moi, je pars du principe que je suis optimiste, pas ça, mais je me dis, ouais, il y a plein d'autres BD. Après, effectivement, c'est vrai que des budgets comme ça, à 30 millions sur un jeune réel, c'est juste improbable, quoi. C'est vraiment, hormis si je me marie avec leur fille, c'est improbable de produire ce genre de truc, quoi. Si je donne un rôle. C'est pour déconner, hein. Mais voilà, donc pour l'instant je suis un jeune réal, il faut que je fasse mes preuves et ça j'en suis conscient.
Ou tu vas aux States, on te donne une chance et tu apprends.
Voilà, sauf que j'ai pas encore l'argent pour payer l'aller-retour. Voilà, je vais faire un autre pipo.
Faut encore un message.
C'est ça. En bateau.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel conseil est-ce que vous pouvez donner alors donc à tous ces jeunes réalisateurs et qui vont écouter notre enregistrement qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil s'ils veulent se mettre, voilà, s'ils veulent commencer l'adaptation d'une BD? Quel est le... Voilà, la première étape, voilà. Allez, faites un pilote qui va coûter 100 000 euros. Écrivez des scénarios.
Il faut lire la BD d'abord, il faut bien réfléchir, il faut s'en détacher. Il faut quand même clarifier les trucs de droit parce que c'est un peu idiot de travailler pour rien quand même. Il faut aussi trouver un producteur. Parce que pas quelqu'un qui mettra un argent sur un projet, ça va toujours plus motivé que juste quelqu'un qui recevra un projet, il ira. Ça sera un peu plus conservé, un peu pour d'amis, famille, que l'auteur. Il faut rencontrer des gens.
Il faut venir au festival de dessiner, ouais. Des collectifs prod.
Oui, en fait c'est ça, c'est la démarche, il faut prendre les choses en ordre. Il faut d'abord rencontrer tout le monde avant de se dire je vais passer par le chemin, il faut d'abord faire le chemin principal. C'est tout le truc. Après, sinon, vous voyez tout péter, faites-le vous-même, démerdez-vous. L'essentiel, c'est de faire. Je dirais que le fondamental, c'est un réalisateur, ça réalise, il faut faire les films. Mais par contre, il faut pas les faire n'importe comment. On peut pas, je sais pas, prendre, vas-y, là, je fais Superman, ok, ou une BD française qui déchire, mais on n'a pas les droits, et je fais La Quête de l'Oiseau et du Temps, j'ai pas les droits, je fais un Ulule, et hop, je me prends un procès, ma carrière est terminée. Il faut réfléchir. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le chemin normal. Il faut rencontrer des gens, comprendre le process, comprendre ce que c'est que des droits, comprendre ce que c'est de travailler avec des avocats, etc. etc. Parce que c'est pas anodin tout ça, c'est un métier. Donc, mais en tout cas, faire.
Réaliser un pilote de 100 000 euros.
Hein ?
Réaliser un pilote de 100 000 euros.
Bah, c'est vrai que c'est intéressant. C'est marrant. J'avais 3 ans à perdre. Non mais au-delà de ça, c'est je pense que voilà, c'est effectivement tout le cursus est super important. Moi, j'ai rencontré Régis avant et puis j'ai demandé parce que ça sert à rien de se jeter du haut de la falaise si on n'a pas de parachute. Donc effectivement, c'est plus intéressant d'avoir Régis qui cautionne et tout ça, et même pour moi, enfin les projets d'adaptation que j'ai à l'heure actuelle, je rencontre tous les auteurs justement pour discuter avec eux, voir si on est sur la même longueur d'onde, et puis voilà, ça c'est purement sur l'adaptation. Puis c'est génial, c'est justement, c'est un échange, on voit comment ils étaient quand ils créent la BD, et puis ce qu'on peut leur apporter, ou des choses comme ça. C'est enfin, pour moi qui adore la BD, c'est génial de rencontrer des auteurs enfin, voilà, comme Mathieu Loffray, Philippe Tom, Ralph Meyer, enfin tous des gens comme ça, c'est génial. C'est un plaisir de gosse, finalement. Et puis, on échange.
Donc, faire les choses dans le bon ordre.
Une petite question sur toi qu'on n'a pas abordé, c'est l'inverse, c'est l'adaptation de BD et de ce qui se fait au ciné. Parce que par exemple, typiquement, bon, ça s'est fait sur les, souvent en produits dérivés, donc pas forcément bien comme les ch'tis, où ça a été juste la transcription. Et par exemple, moi, je suis fan de Tarantino, j'aurais bien voulu avoir une BD Kill Bill ou Pulp Fiction, et avoir d'autres aventures, justement, de la richesse de ce personnage. Donc, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça, c'est l'avenir aussi du cinéma? Parce que je pense que Julien, lui, il a cette vision-là, un peu cross-média du truc, donc il
transforme ce film. Dans les mangas,
c'est ce que disons que c'est... C'est un peu mon approche est différente, c'est-à-dire je le vois pas comme, moi je le vois pas comme un produit dérivé. Moi je le vois comme un moyen de faire un scénario original.
Est-ce que tu peux traduire la question à pas entendu?
Ah pardon, ah, bah, en gros simplement...
On va la répéter la question aussi pour l'enregistrer.
Il va la
bouiller
à l'extrême.
En gros c'est... comment... est-ce qu'on peut faire d'un film une bande dessinée en gros, simplement. Oui, enfin, voilà. En tout cas, moi, sur les choses sur lesquelles je travaille, c'est vrai que c'est difficile de développer des scénarios originaux, de trouver une oreille attentive. Alors que quand on commence à dire, mais en fait, ce sera une BD avant d'être un scénario, ou s'il y aura un scénario, mais il y aura une bande dessinée en parallèle, là, les gens font, oh, ah, c'est une licence. Non, c'est pas une licence. On a juste fabriqué un truc pour faire croire que c'était une licence. Après, dans les faits, c'en est une, mais concrètement, t'as juste pris le truc de ta propre connerie. Donc le truc, c'est juste ça. Et la réalité, c'est que derrière, le public, lui, il est gagnant. Parce que on peut travailler sur des choses qui ne sont absolument pas adaptées. Justement, on parlait des deux médiums, de la bande dessinée et le cinoche, ça n'a rien à voir en termes de construction. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une construction très épisodique dans les bandes dessinées, à part les graphic novels. Et du coup, c'est quand... en ce moment, je travaille sur un truc, justement, je dois adapter... ce schéma-là, j'ai une construction épisodique que je dois faire naître en long métrage, et on est obligé de bouleverser la structure. Donc le fait de travailler en bande dessinée en disant « Ok, j'ai un scénario, voilà. Si j'en faisais une BD, ça ressemblera à quoi ?» Et tout de suite, on s'appuie sur les personnages. Et là, du coup, ça, c'est en plus, en tant qu'auteur, en tant que créateur ou original, si on n'est pas le scénariste de la bande dessinée ou le scénariste du monde et qu'on a créé tout un univers en tant que réalisateur très impliqué, bah, ça nous permet en fait de s'amuser avec nos jouets avant d'aller sur un plateau de cinéma aussi. Et ça rassure tout le monde. Donc je dirais que moi, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. L'approche marketing, ça reste pour des gens qui font du marketing. Donc oui, une BD peut devenir un film, oui, un film peut devenir une bande dessinée si les intérêts économiques de chacun sont là et que les accords intergroupes sont là. Mais ça, bon, en général, les motivations, par accident, ça peut donner un truc chouette.
Tu nourris ton histoire, ton univers et tes personnages via d'autres supports, en fait.
Ouais.
Tu nourris en fait ton univers et tes personnages via d'autres supports. Donc l'idée, c'est mieux de décliner un univers sur d'autres supports plutôt que ton film sur un autre support.
Des personnages plus qu'un univers. Moi, toujours, le côté univers me fait peur. Parce qu'il y a toujours un côté d'abord un monde, un graphisme, une mythologie. Enfin, la mythologie, certes, mais le mythe, c'est un héros. Hein. D'abord, le voyage du héros, c'est quoi, quoi. Donc c'est ce mec-là, moi, qui m'intéresse, ou cette nana, ou c'est ce qui arrive à ces gens-là. Mais l'univers, après, c'est tout un truc où, finalement, on se retrouve assez pris au piège de... Putain, c'est super beau, hein. Mais alors, hein, je m'en fous. Et c'est dangereux. Donc, et je sais que c'est pas ton cas. Mais il y a vraiment, c'est vraiment... En tout cas, pour moi, c'est le centre du truc. C'est comment on fait vivre ces personnages une autre aventure sur un autre milieu.
D'autres questions, commentaires?
Non, juste une annonce pour dire que demain on parlera vraiment de ça, puisque c'est Rue de Biosque de laquelle de Julien, 88e. Demain on parlera d'art séquentiel à la même heure, justement pour parler des différences de conception entre cinéma et bande dessinée.
En termes de récit,
ouais. C'est toi qui anime la conférence, tu peux en dire un mot?
Ouais. ça nous permet de faire la transition et de clore la séance. Oui, donc demain à la même heure, je vous remercie de venir, demain de dimanche. on recevra donc d'autres personnes qui écrivent de la BD, qui font du film d'animation, qui font du storyboard. Et on va rentrer plus, si je peux me permettre de dire ça, dans la matière de l'écriture et de la création du rythme du récit, puisqu'on va parler de cases, de plans, de découpage, de rythme, de contraintes respectives, de choses qui s'enrichissent l'une l'autre. Comment est-ce que le découpage de cinéma a évidemment influencé la manière de montrer les personnages et de raconter, rendre les impressions et les émotions en bande dessinée. Comment ça marche dans le sens, qu'est-ce qui évidemment n'est pas du tout transférable. Et puis comme on aura des auteurs qui ont quand même des univers très précis et très forts, ça nous permettra d'explorer avec eux les parties pris qu'ils adoptent pour raconter leurs histoires et transmettre ce qu'ils ont envie de transmettre tout simplement. Voilà, donc je vous dis à demain. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à... Merci. Merci.